Cap, Jacques Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Cap avec Julie Finkel. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors je reçois ce jour une invitée, mais qui est tout de même quelque peu chez elle, puisqu'elle a animé sur cette antenne une émission entièrement consacrée à la vie étudiante à Toulouse. À l'époque, elle était elle-même étudiante. Eh bien, figurez-vous qu'elle l'est toujours. Bonjour Julie Finkel.
Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
Ben, c'est un grand plaisir, et puis vous êtes ici, comme je l'ai dit, un peu chez vous quand même. Alors, toujours étudiante? La prochaine fois que je vous reçois, c'est pour votre inscription à l'université du troisième âge ?
Oui, c'est ça, hein, peut-être. Bon, après, je pense, vu que je suis dans le domaine de la recherche, c'est aussi être étudiant toute sa vie et toujours progresser.
On est tous des éternels étudiants ou apprentis, c'est sûr. Alors, vous êtes lancé dans des études, on va dire, médicales. Ben, on va préciser pourquoi ce choix ?
C'était assez... naturel, entre guillemets, parce que j'ai toujours aimé le fonctionnement du corps humain quand on avait les cours au lycée. C'était ce que je préférais, donc voilà.
Donc, corps humain, mais voilà. Pas médecine.
Non, parce que j'étais vraiment très intéressée par les sciences fondamentales. Et bon, du coup, je pense qu'on peut dévoiler le suspense.
Donc, j'ai fait des études de
pharmacie. Oui. Parce qu'en fait, c'est vraiment à cheval entre les sciences fondamentales et les sciences médicales. Et d'ailleurs, même en termes de cours, on a vraiment une très très grande variété de cours, aussi bien de la chimie très très pointue que des sciences plus cliniques, avec des stages à l'hôpital, des stages en pharmacie. Donc c'est vraiment passionnant de voir cette transversalité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup.
Si ça vous intéresse autant, ça veut dire que vous ne serez jamais derrière un comptoir d'officine.
Alors oui, mais ça ne m'aurait pas déplu. Parce que vraiment...
Métier d'épicier médical, alors, vous aurez convenu.
Pas du tout. Les pharmaciens qui sont des épiciers, ce sont les mauvais pharmaciens. Et heureusement, ce n'est pas la majorité. Le métier de pharmacien d'officine, c'est vraiment un métier où justement, on met toutes ces compétences-là de scientifiques au service du patient. Et on est censé l'accompagner dans son parcours de soins. C'est aussi le premier en fait, professionnel de santé. Il suffit de passer les portes d'une pharmacie et pour tomber sur un professionnel de santé, sans rendez-vous ni rien. Et il y a aussi toute une partie qui est très importante, qui est le contrôle d'ordonnance, vérifier que le traitement est adapté. Et ça, bon, c'est vrai que...
Comment un pharmacien qui ne connaît pas forcément le client qu'il a devant lui peut vérifier que le traitement est adapté?
Alors, le patient, du coup.
Oui, mais avec des pharmaciens, je dis plutôt le client.
Oui, mais moi, comme je parle des bons pharmaciens, on va dire le patient. alors, justement, ça, c'est une très bonne question. En fait, déjà, rien qu'en voyant l'ordonnance, il y a des choses, si l'ordonnance est mal faite, ce qui arrive de temps en temps, il y a des choses qu'on peut voir directement. S'il y a des grosses interactions médicamenteuses, des molécules qui ne vont pas du tout ensemble, là, ça vaut le coup d'appeler le médecin pour dire « bon, là, j'ai remarqué qu'il y a cette interaction qui peut être dangereuse pour le patient, je propose ça pour remplacer la molécule, qu'est-ce que vous en pensez ?» Malheureusement, c'est quelque chose qui est bien vu par certains médecins, mais pas par tous.
Ah ben oui, parce qu'on a un peu l'impression d'être censuré.
Oui, mais pourtant, c'est le métier du pharmacien, en fait. C'est ça, le vrai métier. Et après, effectivement, il y a des blocages. Par exemple, le fait, quand on a un patient en face de soi, je parle si c'est un patient pas régulier, le fait de ne pas avoir son bilan biologique sous les yeux, de ne pas savoir, par exemple, sa fonction rénale, si elle va bien ou pas, ça peut être des facteurs limitants à l'analyse de l'ordonnance. D'ailleurs, à l'hôpital, justement, on a tous ces facteurs. Les pharmaciens, dans les hôpitaux, ils ont les ordonnances, mais ils ont aussi les bilans biologiques, les prises de sang.
Oui, ils sont quand même un peu plus insérés dans le dispositif. Ouais, ils ont peut-être moins de pression financière, parce que quand on a acheté une officine extrêmement chère, qu'on a une amplitude d'ouverture colossale, des salariés un peu partout, on est peut-être taraudé par d'autres soucis que celui du patient, pour reprendre votre vocabulaire.
En fait, c'est vrai que la rémunération du pharmacien, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat. Et actuellement, il y a un vrai problème d'être rémunéré à ce qu'on vend et pas au conseil, alors que bah, y a des patients, ils viennent à l'officine. On va passer du temps à donner des conseils, même juste bah, comment faut prendre ce médicament, comment il fonctionne, etc. Et ce temps-là, c'est un temps qui n'est pas rémunéré. Donc c'est sûr que ça, c'est vraiment...
Doit-on commencer à pleurer sur le sort des pharmaciens ?
Bah, en fait, c'est surtout pleurer sur le sort des patients.
Ah, parce oui, que... plutôt, oui.
Parce que plus on va penser dans une logique de rentabilité financière, de « il faut que je vende ci, il faut que je vende ça », au détriment des conseils aux patients, parce qu'on peut très bien faire les deux aussi, mais si c'est au détriment du conseil du patient, c'est le patient qui en pâtit de cette rémunération.
On ne va pas trop non plus charger les pharmaciens, parce que certains médecins pratiquent également l'abattage, c'est-à-dire un maximum de clients et un minimum. Donc, par
alors, du coup, ça,
conséquent, c'est... passer avec eux...
Ça, c'est aussi les mauvais médecins, du coup. Dans un monde idéal, dans le monde parfait, de
oui,
comment,
dans le monde des bisounours.
Où chacun aussi ferait ce
bien
sur quoi
son
il
travail.
Est bien son travail et ce sur quoi il est compétent. Parce que, en fait, ce que ne prennent pas en considération les médecins qui sont justement qui râlent quand on les appelle pour parler d'un traitement, c'est que les pharmaciens sont les spécialistes du médicament, de la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation et même ensuite jusqu'à accompagner le patient dans son parcours de soins, la pharmacovigilance aussi, vérifier à l'échelle de la population les effets indésirables d'un traitement, tout ça c'est des rôles de pharmacien. Et donc le pharmacien est vraiment compétent dans ce domaine-là et même par exemple, bon, évidemment dans les domaines des études de pharmacie, des études de médecine, on est tous relativement proches, donc on voit très bien ce que font les autres, et pour voir ce que font mes collègues étudiants en médecine, c'est vrai qu'en termes de sciences pharmacologiques, de sciences chimiques pour le médicament, ben ils sont pas du tout formés, mais c'est normal, ils sont formés au diagnostic, à plein d'autres choses qui sont vraiment dans les rôles du médecin. Heureusement, ils savent quand même ce qu'ils prescrivent, mais c'est vrai que sur certains détails pharmacologiques, le pharmacien va être vraiment indispensable, et les médecins qui... ne sont pas passionnés par la pharmacologie et qui continuent pas à se former là-dessus, bah c'est vrai que très vite, ils deviennent pas très bons en pharmacologie, et c'est là où aussi intervient le rôle de contrôle du pharmacien et de contrôle des poisons, c'est ça à la base le métier
oui,
de pharmacien.
Oui, c'est un peu ça, mais il y a un corps de métier dont on n'a pas encore parlé, qui visite régulièrement les médecins, souvent avec de jeunes femmes très accortes, c'est les vendeurs des laboratoires, les commerciaux des laboratoires. Il les pousse quand même un peu à prescrire certains produits plutôt que d'autres.
Alors ça, du coup, bah, y a eu justement la loi anti-cadeau là, qui est passée récemment. Enfin c'était, récemment, plus ou moins récemment.
C'était déjà un début.
Ouais. Et c'est vrai que les visiteurs médicaux qui vont dans les, rencontrer les médecins pour leur proposer leur dernier traitement, etc., c'est aux médecins aussi justement d'aiguiser leur esprit critique, et c'est pour ça que la formation continue est indispensable, pour voir si vraiment le traitement il va être utile au patient ou si c'est un peu... Bon, normalement si le traitement est sur le marché, c'est qu'il est utile. Mais la question c'est
à
quel point...
C'est ce qu'on disait au laboratoire Servier, oui.
La question c'est à quel point, et aussi justement dans ces laboratoires-là, de ces laboratoires pharmaceutiques, il y a des pharmaciens. Donc eux, c'est des pharmaciens qu'on dit plus industriels, parce qu'en fait, quand on dit pharmacien, il y a plus d'une centaine de débouchés. C'est très très vaste. Et dans les pharmaciens industriels, il y a des pharmaciens un peu à toutes les étapes. Il y en a qui s'occupent du marketing, et il y en a qui s'occupent de ce qu'on appelle les affaires médicales.
Oui, il faut bien quand même on s'occupe
oui,
un peu de ça. Hein.
Non, mais c'est justement comment... alors, j'ai un de mes meilleurs amis qui fait ça comme métier, donc si je l'explique mal, il va me tuer. Donc je vais essayer prendre des pincettes.
Je vous arrangerai tout à l'heure avec
voilà.
lui. Hein.
Mais c'est globalement faire une veille sur tout ce côté médical et sur toutes ces nouveautés scientifiques pour vérifier et pour promouvoir en fait, le nouveau produit qui est porté par le laboratoire par rapport aux autres médicaments, tout en ne disant pas des énormités scientifiques. Parce que c'est ça aussi le problème. Et donc il est notamment en charge de former les visiteurs médicaux et ce genre de choses.
Vous avez aussi, alors vous êtes en doctorat de pharmacie, hein, en cours, mais très avancé, j'imagine.
Oui, plus sur la fin.
Voilà, sur la fin, mais vous avez aussi une autre corde à votre arc médical. Vous faites un doctorat de biologie santé à Montpellier.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que la biologie santé ?
Alors, c'est extrêmement vaste, la biologie santé. Moi en l'occurrence, ça va toucher tout ce qui est en lien avec la biologie et la santé.
Voilà. Déjà, c'est un bon début, on l'avait compris.
Voilà, ça c'est la base. Et dans cette branche-là, c'est extrêmement vaste. Et en ce qui me concerne, je suis plus dans une partie qui est de la biochimie structurelle. Donc, un terme un peu compliqué pour dire qu'en fait, on va regarder la structure des molécules.
Alors, on va revenir peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie sur le fond du débat. À côté de ces activités universitaires, vous avez aussi quand même fait pas mal d'expériences sur le terrain.
Oui.
Obligatoire ou pas, je ne sais pas. Notamment dans la recherche, vous avez travaillé à l'INSERM.
Alors, du coup, ça, c'est dans le cadre... Alors, j'ai fait des stages par le passé à l'INSERM et à l'INRAE.
Alors l'INRAE, rappelons ce que
alors,
c'est.
Alors l'INRAE, du coup, anciennement l'INRA, enfin quand j'étais, voilà. C'était l'INRA. Et donc c'est l'Institut National de Recherche Agroalimentaire, et maintenant environnemental, c'est ça le E, il me semble. Et donc ça aussi, ça regroupe énormément de thèmes de recherche différents. Et quand j'y étais, c'était pour travailler, enfin c'était juste un stage, mais c'était pour travailler sur la génotoxicité. Donc la génotoxicité, c'est la toxicité sur les gènes. Et donc ça peut provenir d'éléments qu'on a dans l'environnement, qu'on a dans l'alimentation. Et en l'occurrence, moi, c'était l'acrylamide. L'acrylamide, c'est une molécule qui est un composé qui est généré quand on va chauffer de la nourriture à très très haute température. Donc par exemple, typiquement quand on fait un barbecue.
D'accord, on reviendra tout à l'heure sur le barbecue. Vous êtes allé aussi au HCE. RES, je ne sais pas comment on prononce ça. Au CERES, HCR. Alors CERES, c'est pas le parti croupion socialiste. Non. Le CERES, c'est autre chose. C'est l'évaluation de la démarche qualité d'université française.
Oui. Alors,
qu'est-ce que ça a à voir dans votre parcours, ça ?
Juste terminer ce que je disais il y a 10 secondes. Maintenant, en fait, je suis en CDD à l'INSERM, mais c'est dans le cadre de ma thèse de recherche. Et pour le HCERES. C'était totalement en plus, c'est parce que j'avais beaucoup d'investissements au niveau national dans des organisations étudiantes, etc. Et donc j'étais très intéressée de comment fonctionnait l'enseignement supérieur. Et il se trouve que l'HCERS, c'est un organisme public qui contrôle le bon fonctionnement, si on veut, des universités françaises et de la recherche. Et comment se font ces contrôles ? En fait, c'est par vague, tous les 5 ans, les universités, pour le versant universitaire, font une auto-évaluation où ils disent « bon voilà, nous on a ça comme point fort, on a ça comme point faible », ils remplissent tout un dossier et ils l'envoient au HCERS qui va regarder cette démarche d'auto-évaluation et la critiquer, enfin dire « bon ben ça effectivement c'est un vrai point faible, ça c'est un point fort, là il y a toute une zone d'ombre où on aimerait bien savoir ce qui se passe ». Et en fait, qui fait ça ? Ce sont des comités d'experts qui sont constitués de personnalités de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc typiquement des enseignants-chercheurs ou des professeurs, et aussi, il y a par comité un ou deux membres professionnels. Et il y a un étudiant par comité. Et donc, moi, en tant qu'étudiante, j'avais postulé, c'est un job étudiant en fait, j'avais postulé pour faire partie de ce comité d'experts, vu que je connaissais bien le fonctionnement du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, voilà, c'est des missions où on évalue une université de laquelle on ne fait pas partie, évidemment.
Oui, quand même, il vaut mieux parler de ce qu'on ne connaît pas plutôt.
C'est surtout que sinon, il y a un énorme conflit d'intérêts. On ne peut pas participer à l'évaluation de notre propre université. On serait soit trop critique, soit pas assez selon notre position dans l'université. Donc, ça serait un énorme conflit d'intérêts.
Il semblerait que des conflits d'intérêts, il y en ait malheureusement beaucoup dans
notre
système.
Oui, bon, au moins celui-là, il est un peu évité.
C'est très bien qu'il soit évité. Qu'est-ce que vous pensez de vous, rentrez dans le métier, vous êtes en thèse, donc vous êtes chercheuse. Qu'est-ce que vous pensez de la recherche française, des moyens dont elle dispose, de ses performances, de son avenir ?
Très bonne question. Je pense qu'il y a des choses dans la recherche française qui sont vraiment incroyables. On a des spécialistes internationaux dans plein de domaines. Bon, après, moi, là, je parle surtout de la recherche fondamentale, parce que c'est ce dans quoi je suis, et de la recherche qu'on dit de sciences fondamentales, tout ce qui va être biochimie, ce genre de choses.
Quand on dit recherche fondamentale, ça recoupe quoi exactement ? Ça démarre où et ça s'arrête où ?
Alors, ça démarre au tout début. Ça va être, par exemple, la recherche sur une molécule, mais vraiment dans un tube, même pas sur une cellule, ou alors juste sur une cellule. Et en fait, c'est par opposition, par exemple, à la recherche clinique, où ça va être de la recherche sur des personnes. Par exemple, quand on teste un médicament, en fait, ça met 20 ans, par exemple, à développer un médicament. C'est extrêmement long. Au début, il va y avoir la recherche fondamentale. On va tester sur des cellules. On va regarder si ça marche. On va faire ce qu'on appelle du drug design, c'est-à-dire au tout début, créer un médicament sur un ordinateur, en fait, et voir si, en théorie, ça peut marcher.
Comment on peut voir si un médicament fonctionne sur un ordinateur ?
Alors,
question de béotien, j'en ai conscience.
C'est vrai, c'est une bonne question. Ça va être en termes de structure, par exemple. si on veut agir sur une molécule de l'organisme, on connaît la structure de cette molécule de l'organisme, et on dit, bah, nous, on veut, du coup, pour agir sur cette molécule, il faudrait quelque chose qui ait cette structure-là. Et donc, pour designer la structure, on peut tester par ordinateur, faire des simulations, etc. Après, c'est créer la molécule, donc ça, ça va être plus de la chimie, de la synthèse, tester la molécule sur l'autre molécule, tester sur des cellules, il y a vraiment plusieurs étapes, et puis après, on va tester sur les animaux, ça, c'est la phase préclinique, ça, c'est si tout se passe bien avant. Donc voilà, la phase préclinique, ça, ça va être aussi pour voir la toxicité de la molécule dans un organisme vivant, parce qu'on ne va pas l'administrer tout de suite à un être humain.
Oh, il y en a certains que je verrais bien comme cobaye, mais on ne va pas donner de nom. Hein.
Éthiquement, c'est un peu discutable.
Oui.
Et enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais la recherche sur les animaux aussi, éthiquement, c'est discutable. » Il faut savoir que c'est très encadré quand c'est bien fait. Donc voilà. Et est-ce que c'est... Oui, ça peut être discutable, mais est-ce que ce serait pas encore plus discutable de tout de suite tester sur un être humain ? Ça, c'est débat.
Ça se discute.
Voilà, ça se discute. C'est des questions qu'il faut discuter. Et ensuite, donc, on a la recherche, quand on développe un médicament, sur ce qu'on appelle les volontaires sains. Donc, ça va être des personnes qui n'ont pas la maladie, mais on va tester les médicaments dessus pour voir justement tous les effets indésirables, les choses comme ça. Et après, sur les personnes qui ont une pathologie pour laquelle est designé le médicament. Ça, c'est l'étape un peu ultime.
Alors, c'est des processus que vous nous décrivez, des processus de recherche qui sont faits au sein de l'université. Est-ce que ça veut dire que l'université met au point, élabore des médicaments en concurrence avec peut-être des laboratoires d'origine privée ? Ou est-ce qu'il y a une collaboration avec les deux ?
Alors, il peut y avoir...
Entre les deux, pardon.
Il peut y avoir les deux. Aussi, il faut savoir que quand on fait de la recherche fondamentale, on va dire par exemple, il va y avoir un chimiste qui va dire « Ah, cette molécule, on l'a synthétisée, c'est vraiment très intéressant, ça peut être très intéressant dans telle circonstance. » Et après, il y en a qui font de la recherche transversale où il y a des grosses équipes avec des gens qui sont un peu spécialistes de plusieurs domaines. D'ailleurs, les pharmaciens, c'est assez intéressant parce qu'on a une vaste panoplie de compétences, justement, donc un côté assez transversal. Mais il y a certaines personnes qui vont en faire, par exemple, que de la chimie. Et du coup, si elles font que de la chimie, elles vont dire, voilà, j'ai fait ça, ça peut être intéressant pour ça, et ensuite passer la main. Et là, il peut très bien y avoir un laboratoire qui va essayer d'utiliser la molécule, ou alors de faire presque la même molécule, mais un peu différente, et déposer un brevet dessus. Ça, c'est possible. Mais il y a des labos qui font tout depuis le début. Après, il y a des collaborations aussi entre le public et le privé. Voilà, c'est... Tout est possible, un peu.
Vous êtes étudiante depuis déjà longtemps.
Oui.
Ça vous démange pas un peu de rentrer dans une vie plus active ?
Alors, en fait, quand on fait un doctorat de...
Vous avez deux doctorats en cours.
Oui, mais quand on fait un doctorat de recherche, donc en l'occurrence celui de biologie santé, en fait, on est dans la vie active. C'est un CDD, pour moi, à l'INSERM. Donc, on va au laboratoire, on fait nos expériences, on a un contrat. C'est la vie active. On cotise même pour la retraite.
Ah, déjà, ouais.
Ouais. C'est la folie. Il serait temps de commencer à cotiser pour la retraite à mon âge, parce qu'on fait des longues études aussi.
C'est un problème.
Voilà, c'est un problème.
Vous finirez à la prendre vers 75 ans, Julie, c'est pas un problème.
Voilà.
Une
minimum.
Une perspective sourire. On va faire une première pause musicale avant de revenir sur ces sujets tout à fait passionnants. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Parce que c'est vous qui l'avez choisi, celle-là.
Alors du coup, j'ai choisi Concerto brandebourgeois de Bach. Donc, Bach, je pense qu'il est assez connu comme compositeur. Donc c'est un morceau qui est baroque et qui est, dans ce cas présent, joué par la flûte à bec, donc par le flûtiste Maurice Steger, qui est un flûtiste suisse. Et peut-être j'aurai l'occasion tout à l'heure de parler plus de la flûte, je sais pas, mais
pourquoi pas. Mais on va
en tout cas, c'est très beau. Pour tous ceux qui pensent que la flûte à bec c'est le pipeau du collège, écoutez ça.
On va l'écouter. Ensuite, on en parlera. Thank you. Voilà, concerto brandebourgeois de Bach, nous retrouvons notre invitée Julie Finkel qui avait fait ce choix. Alors quand vous l'avez fait, vous m'avez dit « je veux vraiment celui pour flûte à bec, sinon je ne veux rien ». Alors pourquoi la flûte à bec ? Vous jouez de la flûte à bec ?
Oui.
Ah ben voilà déjà.
Oui, j'étais au conservatoire en flûte à bec pendant longtemps.
C'est ce qu'on appelait le pipeau, c'est familial, non ?
Ouais, mais non. En fait, c'est pour ça que j'avais choisi ce morceau. C'était vraiment la flûte à bec. En fait, c'est un instrument qui est tout aussi beau et difficile que n'importe quel autre. Et voilà, il a été décidé que ce serait l'instrument sur lequel les gens s'acharneraient au collège.
Oui, moi, j'ai des souvenirs. J'ai même l'air en tête de ce qu'on nous faisait jouer. C'est pas ça. Et j'ai pris ce truc en aurore parce que c'est un instrument de torture.
Mais en fait, si on avait dit « Ok, on va faire la même chose avec le violon », tout le monde aurait joué très très mal du violon parce que... Bon, c'est pas des cours...
On jouait mal de la flûte avec aussi.
Oui, hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je fais la comparaison. Et tout le monde aurait dit « Ah, le violon, c'est facile et moche. » Mais c'est juste qu'en fait, les gens en jouent mal.
Donc, oui, c'est comme les pharmaciens qui font mal leur boulot.
Bah, comme n'importe quel corps de métier qui fait mal son boulot. Et comme aussi les mauvais animateurs
radio. Mais ça, c'est inconnu sur Esprit Occitanie. C'est inconnu. Si peut-être j'ai un nom d'une animatrice, mais bon, on va pas la citer.
Oui, en plus, elle doit pas être loin, je pense.
Oui, j'ai peur que... Voilà. Alors dites-nous, cette flûte à bec, on y reviendra sur vos activités musicales. Moi, j'aimerais bien revenir sur votre métier aujourd'hui et votre thèse de recherche en biologie médicale. Vous avez parlé de l'acrylamide, je le prononce bien.
Alors, ça du coup, c'est juste ce que j'avais fait pendant un stage à l'INRA, donc c'était en 2018, maintenant je ne suis pas du tout là-dessus.
Donc vous avez laissé tomber l'acrylamide et vous êtes sur quoi aujourd'hui ?
Oui, mais quand même, j'avais adoré ce stage, je tiens à dire.
Bon, qu'est-ce que c'est l'acrylamide et à quoi ça
alors,
sert ?
Bon, l'acrylamide, l'objectif du stage, c'était surtout la génotoxicité en fait, parce que... S'il y a bien quelque chose qui me passionne depuis le lycée, c'est l'ADN. Et la génotoxicité, c'est la toxicité sur les gènes, donc sur l'ADN.
Donc c'est la toxicité qui est ingérée de diverses formes pourrait affecter ou modifier le gène.
C'est ça. Donc ça, c'est pour ça que j'avais voulu faire de la génotoxicité, parce que j'adorais l'ADN, donc les gènes, ça me parlait bien. J'aimais bien la toxicité, donc je me suis dit, tiens, on va faire les deux. Et j'avais choisi le stage là-bas parce que c'était une enseignante de la faculté. J'avais adoré ses cours et je m'étais dit, je veux aller dans son équipe. Et en fait, dans la même année, j'ai découvert une thématique de recherche qui s'appelle les ADN origami. Donc,
origami, on sait à peu près ce que c'est.
Quand on entend les deux mots, on se dit, ah bon, ok, ça doit être de l'origami avec de l'ADN. Et en fait, c'est exactement ça.
Pour une fois.
Alors, comment ça se passe? Donc, l'ADN, si vous voulez, c'est ce qu'il y a dans n'importe quel être vivant. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on se dit, l'ADN, c'est les gènes. C'est ce qui permet d'avoir, en fait, les yeux bleus ou les yeux marrons ou d'être grand ou petit. En fait, les gènes, donc ce qui va un peu définir comment on est foutu,
oui.
C'est codé par de l'ADN. C'est-à-dire que c'est comme si l'ADN, c'était un livre de recettes.
C'est un programme informatique, c'est ça?
Oui, mais j'aime mieux la bouffe, donc un livre de recettes. Mais c'est ça, un programme informatique, tout pareil. Voilà. Où on se dit, bah, une page, c'est une recette. Donc une page, c'est un gène. Et ça va être, par exemple, le gène qui va dire... On a les yeux bleus, on a les... Voilà. Donc une page, c'est un gène. Ou alors le gène qui va permettre de fabriquer une protéine qui va agir dans le corps humain. Voilà.
Quand et on donc, parle de séquençage de l'ADN...
Alors quand on parle de séquençage de l'ADN...
Qu'est-ce que ça signifie exactement?
C'est savoir les lettres qu'il y a dans la recette. Parce qu'en fait, l'ADN, c'est une suite de lettres. Il y en a quatre. A, T, C, G. Et selon l'ordre des lettres, ça va être un différent codage et donc une différente recette.
Avec quatre possibilités, enfin je ne suis pas du tout mathématique, mais ça ne fait pas un nombre très impressionnant
de
combinaisons aussi.
Si, si, quand même, ça fait beaucoup de combinaisons, surtout qu'un gène, ce n'est pas quatre. Donc ces lettres, ça s'appelle des bases. Un gène, ce n'est pas quatre bases, c'est beaucoup plus. Et nous, on a énormément d'ADN dans le corps. Donc en fait, ça fait des possibilités infinies, et c'est pour ça qu'on est tous différents d'ailleurs. Avec quand même un socle commun. Et c'est pour ça qu'on est tous humains, ou tous chats ou chiens. Enfin bon, moi je parle pour les humains en tout cas. Donc voilà. Et en fait, donc ce livre de recettes, c'est l'ADN. Et moi, au lieu de dire, bah, ok, je vais lire une recette du livre pour fabriquer un gâteau, donc pour fabriquer une protéine par exemple, je vais dire, ok, moi j'arrache la page et je la plie comme un origami. Et en fait, c'est ça l'ADN origami. C'est utiliser l'ADN, non pas pour sa fonction qui peut être un gène, parce qu'il y a aussi d'autres ADN, mais c'est un peu plus complexe. Donc, non pas pour sa fonction qui peut être d'être un gène, mais vraiment pour sa structure, parce que c'est une structure qui est très stable, c'est une structure qu'on peut modifier chimiquement assez facilement pour y attacher des choses, etc.
Ça veut dire qu'on modifie le vivant?
Alors, c'est pas le vivant, parce que nous, on utilise de l'ADN...
Non, mais ça pourrait, parce qu'on l'utilisait, mais après, il peut y avoir un deuxième stade ou un troisième... de la recherche dans laquelle vous allez modifier le vivant.
Alors,
si on est capable de jouer avec l'ADN...
Ça, du coup, ça, on sort des ADN origami. Il y a déjà des outils d'édition génomique qui existent, donc des outils pour modifier l'ADN, et donc qui sont étudiés, par exemple, pour guérir une maladie. Par exemple, il y a certaines maladies, c'est juste ce qu'on appelle une mutation d'une lettre sur un gène qui fait que la personne va avoir sa durée de vie considérablement réduite, ou par exemple la myopathie de Duchenne. C'est une mutation. Et il y a toute une cascade de conséquences cliniques qui sont terribles pour le patient. Et en changeant une lettre, on pourrait la guérir. Donc il y a tous ces outils d'édition génomique qui sont en train d'être travaillés. Après, effectivement, ça soulève plein de questions éthiques.
Oui, parce qu'on peut, on peut effectivement guérir et apporter du soin, mais on peut aussi aller plus loin, modifier.
Et on peut aussi se dire où est la limite.
Voilà, où est la limite? Est-ce qu'on ne va pas se fabriquer d'être humain?
Et ça, c'est toutes les questions de l'eugénisme. Voilà, c'est ça aussi qui est passionnant. Moi, j'aime bien le côté scientifique de l'ADN. Ça me passionne chimiquement, comment c'est fait, etc. Mais j'aime bien aussi toutes les questions éthiques. D'ailleurs, il y a la loi de bioéthique là, qui a été travaillée l'an dernier, qui a été un énorme chantier pour travailler sur tout ça, pour aussi actualiser en fonction des recherches. Voilà, il y a besoin de, bah, d'actualiser les lois, c'est pas fixé dans le temps, enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre.
Mais est-ce que c'est pas, quand on fait ce type de recherche, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'elles peuvent un jour nous échapper ? Ou qu'elles peuvent tomber dans des mains un peu qui n'auraient pas le même souci éthique que ceux des chercheurs.
Ah oui, bien
sûr. On se dit pas qu'on est en train quand même de se donner le bâton pour se faire battre un jour.
Mais même vous dites qu'ils n'ont pas les mêmes soucis éthiques que les chercheurs, mais tous les chercheurs n'ont pas la même éthique.
Ah, il y a des chercheurs sans éthique Ou alors qu'il y en a une très particulière.
Très probablement, mais nous en France, on est très encadré avec la loi de bioéthique, etc. Mais c'est pas le cas de tous les pays.
Mais on n'a pas envie de jouer avec ces gènes, de voir jusqu'où on peut aller quand on est chercheur. Voilà, mais intellectuellement,
en fait,
c'est quand même.
C'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu entre ce qui va être utile et ce qui va permettre de guérir des pathologies qui sont terribles et tomber dans l'eugénisme. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une limite à trouver, c'est un débat de société. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est vraiment... Bah, par exemple, comme je disais, nous, on a nos lois de bioéthique en France. En Chine, c'est pas du tout les mêmes. Pas du tout. Donc, c'est vrai que ça, à l'échelle internationale, c'est compliqué aussi.
Donc, on joue avec le feu.
Oui, mais d'un côté, si on veut se réchauffer, il faut allumer le feu, j'ai envie de dire.
Oui.
Donc, si on avait été... Si on est toujours beaucoup trop... prudent, alors qu'on est déjà très prudent en France, hein, je tiens à appuyer là-dessus, vraiment un principe, on est vraiment extrêmement prudent, même sur les médicaments avec les principes de précaution, etc.
De toute façon, on n'a pas de pangolin ici. Donc
ça oui, voilà. Enfin, on mange des escargots et toutes sortes de choses aussi, des grenouilles, la gastronomie française aussi, c'est quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut vraiment rester 100% naturel, on fait plus rien. Enfin, je veux dire, quand je dis 100% naturel, c'est même pas utiliser les outils qu'on a. Déjà, on serait pas en train de faire une émission de radio. On serait encore à se couvrir de peau de bête. Bon, y en a qui se couvrent encore de peau de bête. Mais je veux dire, on serait encore des milliers d'années en arrière. C'est ce que je veux dire.
Ça veut pas dire que les gens vivaient plus mal des milliers d'années en arrière.
En tout cas, ils vivaient moins longtemps.
Oui, y a des fois, on se dit que finalement... Je vous parlerai pour finir cette émission d'un livre que j'ai choisi, que j'ai terminé hier, mais que j'ai choisi à dessein aussi, puisqu'on pourra reparler d'ADN et de ce genre de choses. Mais je vous ai interrompu. Donc, on était sur les limites de ces recherches qui n'en ont pas véritablement, si ce n'est des considérations éthiques qui, à tout moment, peuvent être bouleversées. Vous disiez vous-même qu'en Chine, ils n'ont pas du tout la même approche que la nôtre. Elle est peut-être tout aussi respectable d'ailleurs, mais ça veut dire que un jour ou l'autre, il se passera quelque chose qui nous surprendra à tout le moins.
Alors, surprendre négativement dans ce cas.
Voilà, peut-être
parce qu'il y a déjà des choses surprenantes très chouettes qui se passent. Mais juste par rapport à tout ça, c'est vraiment un sujet qui est passionnant, mais c'est pas du tout ce sur quoi je travaille. les ADN origami, ce sur quoi je travaille, c'est vraiment in vitro, donc dans des tubes. On plie l'ADN et en l'occurrence, moi, il y a différents projets sur lesquels je travaille. Il y a même des applications potentielles en microélectronique. Bon, ça, moi, j'y connais rien, donc ça m'intéresse un peu moins. Enfin, c'est intéressant, mais je veux dire, je ne pourrais pas en parler.
Qu'est-ce que le gène humain vient faire en microélectronique?
Alors, c'est pas du tout le gène humain, c'est de l'ADN. Donc, une suite de bases, chimiquement. Une suite de lettres, comme si on utilisait un mot, mais qui voulait rien dire. Ou alors qui veut dire quelque chose pour quelqu'un d'autre qu'un humain, par exemple une bactérie. Et on le replie pour faire des structures qui vont permettre de faire des puces ou des choses comme ça. Bon, moi, je dis microélectronique, j'y connais pas grand-chose, mais par exemple, en ce qui me concerne pour les applications biomédicales, on peut faire des nanorobots, par exemple. Donc, c'est des nanorobots. Dès qu'on parle de nanoparticules, etc., tout le monde s'affole. Ça veut juste dire très petit. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est pas forcément négatif. Donc, nanorobot, c'est un très petit robot. Donc, le nanomètre, c'est, par exemple, pour donner une idée de l'échelle, c'est par exemple... 80 000 fois plus fin que le diamètre d'un cheveu. Qu'un cheveu normal, pas qu'un cheveu d'une certaine animatrice radio d'esprit Occitanie.
Et qui est nano aussi sur certaines de ses particularités.
Mais du coup, donc des nanorobots, ça va être des tout petits robots. Et on peut, s'il y a des recherches qui sont faites pour utiliser par exemple ces nanorobots pour lutter contre le cancer, pour en faire des médicaments qui vont être beaucoup moins toxiques pour l'humain que les chimiothérapies actuelles. Et pour faire ce genre d'application qui serait pour l'homme vraiment très intéressante. Parce que si on peut arriver à guérir un cancer sans avoir tous les effets indésirables d'une chimiothérapie... Bon, après, à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop tôt pour parler des effets indésirables des ADN origami parce qu'on est encore à des phases très, très fondamentales. Mais actuellement, les chimiothérapies, c'est un médicament qu'on donne pour tuer les cellules cancéreuses. Mais le problème, c'est que ça tue aussi des cellules saines. Et c'est pour ça que les personnes qui sont sous chimiothérapie, elles ont les cheveux qui tombent, elles sont très fatiguées. Il y a des effets vraiment très, très, très indésirables. C'est juste qu'on estime que la balance bénéfice-risque, guérir du cancer VS tomber malade à cause de la chimiothérapie et favorable en vertu de guérir du cancer.
Si on arrivait à tout soigner, on mourrait de quoi ?
Ah bah, il y aurait d'autres pathologies qui émergeraient très probablement. D'ailleurs, c'est aussi...
Le tonneau des Danaïdes, autrement dit. Bon.
C'est quand on regarde un peu l'évolution des causes principales de mortalité de l'humanité, il y a quelques... Alors, honnêtement, j'ai pas l'échelle temporelle en tête, mais par le passé, c'était plus les maladies infectieuses, donc avec toutes les grosses infections virales qui pouvaient y avoir, toutes les pathologies infectieuses qui pouvaient y avoir. Et après est apparue la vaccination. Et donc, on a commencé à moins mourir des pathologies infectieuses, parce que la population était vaccinée contre toutes sortes de pathologies infectieuses. Mais il y a commencé à avoir les cancers qui ont émergé, et aussi des choses liées à notre mode de vie. Le fait d'avoir plus de sédentarité, toutes les pathologies cardiovasculaires, etc. Donc, maintenant, les cancers, c'est assez dominant. Mais là, on estime que d'ici quelques années, ça va être plus tout ce qui est antibiorésistance. Donc, antibiorésistance, quand on dit... Bon, on se souvient tous de la phrase « les antibiotiques, c'est pas automatique ». En fait, c'est parce que quand on prend des antibiotiques de façon mal adaptée, et c'est pour ça que aussi le pharmacien est important dans l'accompagnement des patients.
Je crois que vous ne perdez pas le fil.
Voilà. Quand on prend des antibiotiques de façon non adaptée, ça crée des résistances. Et les bactéries résistantes, les bactéries multirésistantes, au bout d'un moment, on n'arrive plus à les tuer. Parce qu'elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Et donc, on estime qu'un jour, à l'avenir, dans un avenir proche, c'est pas très précis, mais dans un avenir proche, on va avoir un switch et qu'on va commencer à encore plus mourir d'antibiorésistance.
Bon, donc il y a de l'espoir, on finira toujours par mourir quand même.
On finira toujours par mourir. Nos modes de vie évoluant et étant ce qu'ils
Parce
sont
que
avec.
L'immortalité, c'est long, hein, surtout vers la fin, disait je ne sais
ouais,
plus trop.
Voilà. On finira toujours par mourir et il y aura toujours de l'avenir pour la recherche pour essayer d'esquiver le truc et puis de faire émerger d'autres causes de mort.
Donc finalement, c'est un espèce de jeu aussi intellectuellement, c'est très
excitant.
Ah
bien sûr, oui, c'est sûr.
Il y a du monde en plateau, là il y en a une qui s'agite, je la regardais parce qu'elle essayait de me souffler quelque chose, mais je ne le reprendrai pas. Revenons à votre thèse de recherche, donc c'est cet ADN origami, c'est ouais. Ça. Qu'est-ce que vous allez essayer de trouver ou de prouver, je ne sais pas comment il faut le dire, à travers cette thèse?
Alors, je travaille sur plusieurs projets en parallèle. Donc, il y a ces histoires de nanorobots sur des cellules cancéreuses. Et il y a aussi tout un aspect où, en fait, c'est développer des nanostructures ADN pour aider, je vais expliquer après ma phrase, pour aider à caractériser des structures de récepteurs. Donc,
déjà, je veux bien vous expliquer,
voilà.
Oui.
Déjà, qu'est-ce que c'est un récepteur? Un récepteur, ça va être une molécule qu'on a dans l'organisme et qui va permettre... de capter un signal, qui est médié par une autre molécule, capter un signal et faire une réaction dans la cellule, etc. Donc c'est un peu la porte d'une cellule pour dire « Ah là, j'ai reçu tel courrier, il faut faire ça dans la cellule. » Et parfois, ces récepteurs peuvent être impliqués dans des pathologies, parce qu'il y a un problème sur le récepteur, parce que tel récepteur est surexprimé, donc présent en trop grande quantité, ce genre de choses. Donc beaucoup de traitements, de médicaments, même à l'heure actuelle, agissent sur ces récepteurs. Sauf qu'il y a des récepteurs qui sont impliqués dans certaines maladies dont on ne connaît pas la structure. Donc si on ne sait pas la structure, c'est un peu dur d'agir dessus. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ces origamis ADN, donc replier l'ADN pour faire une forme, qui va aider à tenir le récepteur pour pouvoir mieux le voir en microscopie ou de choses comme ça, pour le stabiliser. Et donc aider à la caractérisation de ce récepteur pour ensuite faire des traitements, des molécules qui vont agir, et plus tard des traitements, des molécules qui vont agir sur ce récepteur. Je ne sais pas si c'était très clair.
Je vous ai suivi. Ça veut dire que vous allez parvenir à un résultat de toute façon.
Ah bah ça, il faut pas mettre la charrue avant les
bœufs.
Oui,
mais vous allez parvenir à un résultat. Mais vous êtes plusieurs à travailler sur ce type de recherche ou pas. Vous êtes dans votre laboratoire, vous êtes seul à travailler là-dessus.
Alors,
est-ce qu'il y a d'autres chercheurs de par la France ou le monde qui travaillent également sur ces
alors,
questions?
Alors sur les origami ADN en règle générale et sur les ce qu'on appelle les nanotechnologies ADN. Il y a une assez petite communauté, en fait, quelques centaines de personnes en comptant les chercheurs, les doctorants, les post-doctorants, donc ceux juste après le doctorat et les étudiants en stage. Donc c'est vraiment pas énorme. D'ailleurs, en ce moment, cette semaine-là, il y a un congrès en Zoom le soir, là, international sur ce domaine. Et on est vrai, on n'est pas beaucoup, on est 150 à peu près. Mais en fait, il y a, comme j'ai dit, une très grande variété d'applications. Et en France, il y a pas beaucoup de monde qui travaille sur les ADN origami, c'est assez peu connu. On est une des seules équipes à Montpellier, parce que du coup ma thèse de recherche est à Montpellier, on est une des seules équipes donc, au centre de biochimie structurelle, et dans l'équipe à travailler sur les ADN origami, on est quatre. Il y a le chercheur principal, un post-doctorant, et on est deux doctorants, chacun sur des applications différentes. Donc c'est vraiment, c'est pas une grosse communauté, mais pourtant plein d'avenir et plein d'applications possibles. Donc l'enjeu, c'est aussi de travailler avec des gens de différentes branches pour aiguiser ces applications, justement.
Donc la recherche, c'est fondamental.
C'est fondamental, c'est transdisciplinaire, il faut rester ouvert et ça évolue. Voilà.
On fait une deuxième pause musicale, ça là c'est moi qui l'ai choisi. Alors, moi je vais vous proposer, ça s'appelle Les Saltimbanques, c'est un opéra comique, trois actes, quatre tableaux. C'est de Louis Gann et de Maurice Ordonneau, vous ne les avez pas connus parce que ça a été créé le 30 décembre 1899 au Théâtre de la Gaîté à Paris, qui était dirigé par un monsieur de Bruyère. Alors ça a été un triomphe à l'époque et la centième représentation est vite atteinte. Alors au bout de 100 jours, ça faisait une par jour. Et on a comparé l'histoire, c'est une enfant trouvée qui est recueillie par un groupe d'artistes dans un cirque ambulant. Et voilà, ça a été un très très grand succès à l'opéra comique. Et l'air le plus connu, c'est la valse du final, du premier acte, qui s'appelle « C'est l'amour » que je vous propose d'écouter. Et Picasso en fera d'ailleurs un tableau pendant sa période rose entre 1904 et 1906 environ. On écoute « C'est l'amour ». Voilà, c'est l'amour extrait des saltimbanques, de l'opéra comique Les Saltimbanques, et nous retrouvons notre invitée, la chercheuse, on va dire la chercheuse, vous trouverez aussi un jour, Julie Finkel, qui travaille sur l'ADN origami, on dit origami que ou origami ?
Origami.
Origami, voilà. Bon,
origami.
Je ne sais pas si les auditeurs l'ont découvert, en tout cas moi je l'ai découvert, j'ai à peu près compris de quoi il s'agissait, et ça paraît effectivement tout à fait passionnant, et peut-être d'ailleurs ça nécessiterait qu'on se revoie dans quelques temps, pour continuer cette conversation et que vous nous apportiez encore d'autres éclaircissements sur ces techniques du futur, un peu quand même. Hein.
Bah avec plaisir. Bah, yes. On le construit dans le présent, hein, le futur.
Oui, on le construit dans le présent, mais enfin bon, c'est pas opérationnel encore, mais on a compris que ça pourrait effectivement participer aux soins d'un certain nombre de maladies, en attendant qu'il y en ait d'autres et qu'il y ait d'autres chercheurs qui s'expriment pour essayer de les éradiquer. Donc c'est la fuite en avant permanente. Alors à côté de ça, vous êtes quand même quelqu'un de très actif et même d'hyperactif, Julie Finkel. Vous avez beaucoup travaillé auprès des étudiants. Alors je rappelais en démarrant cette émission que vous aviez assurée sur cette antenne et à ce micro une émission concernant la vie étudiante, mais vous êtes allé encore plus loin puisque vous êtes rentré dans la direction de certains organismes étudiants.
Oui. Donc j'ai eu pas mal d'implications au niveau local déjà, à Toulouse. Et ensuite, au niveau national, j'étais vice-présidente en charge de l'innovation sociale à la FEJ, donc qui est la première organisation représentative des étudiants. Mais c'était il y a déjà un petit moment, vu que c'était en 2019.
Wow, c'est pas si vieux.
Oui.
C'est pas si vieux. Mais on a le temps, quand on fait des études aussi techniques, poussées que les vôtres, de s'investir.
Alors non.
Pour les autres, oui, parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein.
Non, ça a été vraiment une période compliquée. Quand on est passionné, on trouve le temps, mais disons que c'était... quand j'étais à la FEJ, j'étais à Paris, donc même physiquement, en fait, c'est pas compatible avec les études à Toulouse. Mais c'était des années où je dormais quasiment pas, où je travaillais beaucoup, mais j'étais complètement absorbée par ce que je faisais, donc j'en garde quand même relativement un bon souvenir. Mais c'est vrai que ça fait aussi du bien quand ça s'arrête et qu'on a, entre guillemets, que les études. Même si c'est des études longues.
Alors, quand on a préparé cette émission, on parlait des loisirs créatifs. Bon, la pâtisserie, je sais que vous êtes une excellente pâtissière. Alors, des gens plus macho que moi et plus âgé, dirait peut-être elle est bonne à marier, ce que je ne dis absolument pas, je vous rassure.
Oui, des gens de ma famille ici présents le disent aussi.
Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Ce sont des gens assez datés d'ailleurs, hein, il faut bien le reconnaître. Alors dans les loisirs créatifs, vous m'avez dit tricot, crochet. Alors,
oui.
Je vous imagine pas tellement en train de faire du tricot avec l'ADN, oui, mais...
Ah oui, c'est pareil.
Oui, c'est pareil, c'est la même chose.
C'est un peu plus gros quand on fait une écharpe qu'une nanostructure, mais... Non, en fait, c'est ce côté créatif, finalement, que j'aime bien dans les ADN origami, parce que c'est vrai que c'est de la recherche où on crée une nanostructure en se disant peut-être que je peux faire ça, ça serait intéressant pour ci, ça, on peut essayer.
Donc il faut quand même développer une grande acuité intellectuelle et puis un goût pour la créativité. Pour
la recherche ?
Oui.
Ah oui, je pense, oui. Oui, et puis même, en fait, la recherche, c'est... On dit toujours, les chercheurs, ils trouvent rien. Mais en fait, les échecs dans la recherche, on a une expérience qui ne marche pas, c'est un résultat. Et c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment ça fonctionne. Et tout ça, en fait, trouver les réponses à ces questions, ça va faire appel à de la créativité aussi. Donc c'est sûr que si on n'est pas curieux ou qu'on n'a pas trop de créativité, la recherche, ça peut être compliqué. Bon, après, c'est des choses qui se travaillent et qui se développent. C'est pas, on n'est pas, je pense, créatif ou pas créatif, c'est...
Alors l'œuvre d'art, parce que vous aimez l'art, l'œuvre d'art, quand je vous ai posé la question, une œuvre d'art, il y en a beaucoup, mais qui compte pour vous, qui vous a marqué la réponse.
Alors, ouais, du coup, j'en ai répondu trois.
Vous avez répondu trois, donc c'est un choix. Dites-moi.
Choix. Alors, ce serait peut-être pas le choix que je ferais parmi les trois que j'ai dit, ce serait peut-être pas le choix que je ferais intuitivement, mais dans cette émission, par rapport à tout ce que j'ai dit, je vais dire un film là, qui est sorti en 2016, qui s'appelle La La Land. Et on en a beaucoup parlé, évidemment, parce qu'il a été oscarisé. Je ne sais plus combien d'Oscars il a eu, mais c'était énorme. Déjà, je trouve que esthétiquement... Bon, après, je ne suis pas du tout une pro du cinéma ni rien, mais je trouve
que... Non, mais il n'y en a pas dans votre famille, rassurez-vous.
Je trouve que esthétiquement, le film est vraiment incroyable. Les couleurs, les costumes, même comment c'est filmé avec des boucles, souvent même à la fin avec cette boucle temporelle, un peu, on peut dire. Enfin, je veux pas spoiler, mais voilà, c'est vraiment un film qui esthétiquement, je trouve, est très bien fait. Et en termes d'histoire, alors pour moi, c'est tous ceux qui disent Ah, La La Land, c'est une comédie romantique. Je suis bon, oui, il y a une composante romantique évidemment, mais pour moi, le film, c'est vraiment un film qui traite des passions. Et de jusqu'où on est prêt à aller pour ses passions, ce que ça peut nous coûter et ce que ça peut nous apporter. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un film que je trouve incroyable et qui me parle beaucoup et que j'avais vraiment adoré. Et quand je l'avais vu, d'ailleurs, il y avait une période réfractaire après où il fallait que je m'en remette un peu. Mais voilà.
Le moment de votre vie qui vous a marqué le plus
Je vois à côté.
Non,
là,
non, ne regardez pas l'assistance publique.
Non, non, alors je vais répondre ce que j'ai répondu sur la feuille.
Oui, j'ai mon temps, mais vous pouvez répondre ce que vous voulez.
Oui, alors le moment qui m'a le plus marqué.
Moi, il dit c'est quand j'avais 10 ans.
Voilà, c'est quand j'avais 10 ans. En fait, donc j'étais déjà au conservatoire et j'avais passé le concours pour être admise en horaire aménagé. Donc les horaires aménagés au conservatoire, c'est en quelque sorte musique-études. Mmh. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place. On était deux classes de 20 en sixième. Et puis après, on se suit tout le collège. Et c'est vrai que quand j'ai su que j'avais été prise, je m'en souviens encore, on était dans la voiture avec toute la famille. Et mes parents, ils m'ont dit « Ah ben, on vient d'avoir les résultats. » Je ne sais pas s'ils avaient reçu un mail ou quoi. Et t'es prise. Et j'ai été super heureuse parce que je me suis dit « Déjà, le travail, ça paye. » Parce que bon, j'avais quand même à travailler, etc. Et je m'étais dit « Je suis sûre que ça va m'apporter beaucoup. » Et c'est vrai qu'il y a eu d'autres moments forts. Par exemple, quand j'ai été prise en pharmacie, j'étais aussi très contente. Le concours, c'était difficile. Il y a d'autres choses qui m'ont apporté beaucoup. Mais ce moment-là, c'est vraiment... Je me souviens à 10 ans me dire « ça va m'apporter beaucoup ». Et effectivement, ça m'a apporté énormément de rigueur, de créativité, de curiosité, de pouvoir m'intéresser à ce que font d'autres personnes. Et surtout, de baigner dans un univers où c'est la passion qui dirige un peu tout le monde. Ça c'était super important et c'était vraiment de super expériences.
Mais pourtant vous n'avez pas continué dans cette voie, c'était donc le conservatoire de musique, c'était la flûte à bec,
ouais.
Vous n'avez pas poursuivi?
Non, parce
que... Vous ne voyez pas faire une carrière de musicien?
C'est pas ça, c'est que moi j'ai toujours adoré les sciences et quand j'étais justement dans ce collège-là, donc à Michelet Annexe, ça s'appelait, ça s'appelle toujours, quand j'étais là-bas, j'ai eu un prof de maths qui était incroyable. Et je me suis dit, je veux faire de la recherche en mathématiques. Bon, finalement, je ne fais pas du tout de la recherche en mathématiques. Mais c'est vrai que je ne sais pas d'où ça m'est venu. Parce qu'en plus, quand on a 14-15 ans, la recherche, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc, je ne sais pas, ça m'a mis cette idée dans la tête. Et je me suis dit, j'ai envie de faire de la recherche. Puis après, je suis plus tournée vers la recherche médicale. Parce que c'est vrai que tout ce côté médical, ça m'intéressait beaucoup. Avec cette composante fondamentale liée aux maths, la physique, la chimie. Et ça a donné la pharmacie. Voilà.
Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu hardi de vous demander le moment qui a marqué votre vie alors que votre vie est très jeune et que
oui.
Hein, vous en avez beaucoup encore à vivre. C'est peut-être ça. Que ce soir d'ailleurs va se passer quelque chose qui va vous marquer aussi puisque je crois qu'il y a une cérémonie pour vous distinguer le major que vous êtes de promotion, c'est ça?
Oui, alors après dire que ça a marqué ma vie, bon je suis contente mais...
le major c'est le premier quand même.
Oui, oui, oui. Non, mais je suis contente parce que je suis quelqu'un qui...
En major de quoi, d'ailleurs? Je ne l'ai pas...
Major de ma promo de pharmacie de l'an dernier. Et en fait, je suis contente parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup l'esprit de compétition et qui veut toujours faire mieux et je suis assez exigeante avec moi-même. Mais là où je suis surtout contente, c'est que comme j'ai dit, durant mes études de pharmacie, j'ai eu beaucoup d'investissements dans des organismes étudiants ou même au niveau local où j'ai été élue aussi dans différents organismes publics. Et ça m'a pris beaucoup et parfois, je perdais un peu... le fil et je me disais les études, je me sens vraiment loin de ça. J'ai essayé de raccrocher un peu les wagons, donc je suis contente d'avoir pu raccrocher les wagons et bien comme il faut et de finir sur une note positive.
Bon, bah déjà, félicitations et je suis sûr que ce soir ce sera une belle cérémonie. Alors la personne importante pour vous, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir, mais qui vous ont inspiré, qui ont été un modèle. Vous m'avez répondu, je dis quand même, elle est encore un gros bébé, Julie Finke m'a répondu, mes deux parents.
Bah oui, mais même je pense que quand j'aurai 75 ans, 80 ans, ce sera toujours mes deux parents, je pense. Voilà, alors bon.
Bon, bah écoutez.
Voilà, c'est deux personnalités totalement différentes. vraiment très, très différentes.
Oui, j'ai remarqué, puis pour les avoir quelque peu approchées, j'ai remarqué.
Oui, oui, c'est vraiment deux personnes totalement différentes, mais les deux m'ont apporté beaucoup et les deux sont aspirants dans leur...
C'est quand même
leur...
un peu le rôle de part. Alors, vous me direz que tous les parents ne sont pas forcément des bons parents, comme il n'y a pas de bons pharmaciens ou de bons animateurs radio, certes, mais bon, en tout cas, ce sont vos parents, c'est bien, c'est un bon choix. Nous avons parlé pendant presque une heure. On arrive à la dernière séquence de cette émission qui est toujours celle où l'on parle de livres. Alors, quel est votre choix de livre ? C'est votre livre de chevet, d'ailleurs, dont vous allez nous parler, non ?
Non, c'est pas mon livre de chevet. C'est un livre que j'ai lu une fois en 2020, pendant le confinement, d'ailleurs. Et c'est quand ma période, toute cette période d'engagement étudiant s'est un peu terminée. Donc, c'est la comédie Inhumaine. De Julia de Funès et Nicolas Bouzou. Et en fait, c'est un livre qui est très court, qui se lit très facilement et qui parle d'un peu toutes les dérives qu'on peut avoir du management à l'heure actuelle dans les entreprises. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé parce qu'à ce moment-là, j'en avais vraiment eu marre des organisations étudiantes dans lesquelles j'étais parce qu'on s'approchait vraiment de ce côté un peu entreprise. Bon, évidemment, un peu différemment, mais ça fonctionnait vraiment comme ça, avec tout le management un peu... faux qu'il peut y avoir dans une entreprise, de dire on va mettre, donc c'est l'exemple qu'ils prennent dans le livre, on va mettre un baby-foot pour que les employés se sentent bien. Et comme il disait dans le livre, personne n'a jamais démissionné d'une entreprise parce qu'il n'y avait pas de baby-foot. On démissionne parce qu'il y a une perte de sens dans ce qu'on fait, parce que on ne retrouve plus le sens. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je suis partie de la FAGE, parce que j'ai démissionné avant la fin de mon mandat. Je suis partie de la FAGE à cause de ces raisons-là. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est drôle, parce que c'est vraiment tout ce qu'on essaie de critiquer, de dire, ah, les entreprises, elles font ci, elles font ça, en fait, on fait pareil. Et ça m'avait aussi rappelé un autre livre qui s'appelle Sa Majesté des Mouches, qui est en fait un livre où on a des enfants qui sont tout seuls sur une île déserte et qui essaient de recréer une société. Bon, à la fin, il y a des grosses dérives avec des enfants qui meurent, etc. En fait... C'est quelque chose qu'on critique dans la politique, au niveau gouvernemental, dans les entreprises. Mais en fait, on fait tous pareil. On fait tous pareil et je trouve ça vraiment ironique et un peu triste. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un moyen d'y échapper.
La comédie humaine de Julia de Funès et Nicolas Bouzou. Alors pour ma part, moi je vais vous parler d'un livre que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Ça va nous ramener quelques milliers d'années, dizaines et voire centaines de milliers d'années en arrière. Ça s'appelle Néandertal nu. C'est du Ludovic Slimak chez Odile Jacob. Alors Ludovic Slimak, c'est un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertaliennes. Il est chercheur au CNRS. Il est auteur de plusieurs centaines d'études scientifiques sur ces populations. Il a dirigé énormément de missions archéologiques de l'Équateur au cercle polaire en passant par d'autres régions, même en France d'ailleurs. Et Ludovic Slimak, dans ce livre qui est absolument passionnant, je vais me répéter plusieurs fois parce que j'ai adoré ce livre, il nous dit « Et si nous nous étions fourvoyés sur ce que fut l'homme de Néandertal ?» Alors c'est un récit de voyage parce que Ludovic Slimak nous amène sur les différents chantiers de fouilles qu'il a eu à connaître. Il nous entraîne dans une enquête, c'est véritablement une enquête archéologique, on est presque dans un polar. Pendant 30 ans, il a inlassablement traqué les traces de Néandertal, qu'il appelle pas Néandertal, qu'il appelle la créature. Et il s'est confronté aux vestiges, et il y en a assez peu, et donc c'est tellement ancien que même la datation au carbone 14 ou autre est très aléatoire. Mais il nous décrit cette créature inattendue, et il nous dit « la nature de celle-ci pourrait bien nous avoir totalement échappé ». Alors c'est peut-être un constat d'échec, et il pose cette question qui est dérangeante. « Serions-nous incapables de concevoir une intelligence trop divergente de la nôtre ?» Et il nous parle de la disparition radicale et dans son intégralité d'une humanité. Néandertal était une humanité, ce n'est pas notre ancêtre, c'est une autre branche totalement différente. Une humanité que l'on a, je viens de le dire, du mal à connaître, on n'en connaît que de maigres bribes. Et alors, que peut-on savoir d'elle, de ses mécanismes cognitifs, de sa façon d'appréhender son monde et sa vie, de sa structure mentale ? Je vous cite deux phrases de Ludovic Slimak. Si Néandertal ne fut jamais un autre nous-mêmes, tout reste à faire désormais pour déterminer quelles furent ses propres manières d'être humain. La démarche est fascinante et nous engage à explorer fondamentalement ce que nous sommes, nous, sapiens. explorer notre nature, non pas en tant que l'humanité, mais en tant qu'une humanité. Fermez les guillemets. Voilà, c'est un ouvrage certes scientifique, mais encore une fois d'une grande facilité de lecture. Je l'ai lu, donc c'est dire que tout le monde peut l'aborder. Mais c'est aussi finalement un ouvrage philosophique qui nous invite à une profonde réflexion sur ce que nous sommes véritablement, nous et nos sociétés. C'est absolument passionnant. Merci, monsieur Slimak. Voilà, nous arrivons, Julie Finkel, au terme de cette émission. Mais bon, j'ai senti que vous aviez beaucoup de choses à nous raconter, à nous dire, à nous apprendre, à peut-être nous éclairer sur toutes ces techniques qui sont passionnantes. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. À la réalisation au bouton, nous avions Tiffaine Lemen, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site de la station Esprit Occitanie. Julie Finkel, encore une fois, merci. Mais
merci à vous.
Vous reviendrez. Vous avez beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Bonne semaine à toutes et à tous.